Bonsoir à tous. Le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire visant Alexandre Benalla, ce collaborateur d'Emmanuel Macron, filmé en train de frapper un manifestant à Paris. L'IGPN, la police des polices, a également été saisie. L'affaire Benalla touche directement Emmanuel Macron, qui pour l'instant se tait. À gauche comme à droite, on demande des explications au chef de l'État. Dossier dans ce journal avec Florence Turme, Laura Dulieu et Ilan Malka. Le gouvernement impose 190 millions d'euros d'économies à l'audiovisuel public. Deux chaînes, France et France 4 vont disparaître du réseau hertzien. Les explications de Cécile de Kervas-Doué. À l'étranger, Viktor Orban accueilli à bras ouverts en Israël malgré les accusations d'antisémitisme qui pèsent sur le Premier ministre hongrois. Mais son homologue israélien Benjamin Netanyahou considère Orban comme un allié privilégié, au même titre que Donald Trump. La correspondance à Jérusalem de Marie Semelin. Jusqu'où ira l'affaire Benalla? Depuis hier soir, l'Élysée tente de justifier le maintien en poste d'Alexandre Benalla, ce proche conseiller d'Emmanuel Macron, accusé d'avoir frappé un manifestant le 1er mai dernier à Paris. Benalla a été mis à pied pendant 15 jours avec son salaire suspendu, mais depuis, il a repris ses activités. On l'a vu notamment lundi dernier sur les Champs-Élysées, près du bus des joueurs de l'équipe de France. On va évoquer dans un instant l'aspect politique de cette affaire, mais tout d'abord, revenons sur cette fameuse vidéo publiée par le journal Le Monde, où l'on voit Alexandre Benalla coiffé d'un casque de police molester un jeune homme. Florence Turme, bonsoir.
Bonsoir.
Sur cette vidéo, on voit un deuxième homme, Vincent Crase, qui lui aussi a été sanctionné par l'Élysée.
Oui, et alors que l'attention s'était depuis hier soir focalisée sur Alexandre Benalla, c'est Bruno Roger Petit, le porte-parole de la présidence de la République, qui mentionne ce deuxième homme. Un deuxième homme, Vincent Crase, qui apparaît également sur la vidéo en jean et veste grise, crâne rasé et tête nue, contrairement à Alexandre Benalla, qui, lui, vous l'avez dit, porte un casque. Vincent Crase, que l'on voit au milieu des CRS en tenue, tirer à l'écart un homme à terre, en criant des mots difficiles à comprendre. On le voit aussi lever la main au-dessus du jeune manifestant avant qu'Alexandre Benalla n'intervienne à son tour et le frappe à plusieurs reprises. Les deux hommes se connaissent bien. Ensemble, ils avaient créé en 2016 une très éphémère fédération de la sécurité privée, puis travaillé au service de la sécurité de la campagne présidentielle, et ils auraient demandé l'autorisation d'assister à la manifestation du 1er mai en tant que simples observateurs du déroulement d'une mission de maintien de l'ordre. Tous deux sont des réservistes de la gendarmerie à divers titres et ils n'avaient aucune légitimité pour intervenir, a déclaré Gérard Collomb. Le ministre de l'Intérieur condamne sans ambiguïté un acte inadmissible. Il a également saisi l'IGPN, la police des polices, pour vérifier les conditions de mise en œuvre des règles en vigueur pour l'accompagnement des observateurs. De son côté, le parquet de Paris a ouvert ce matin une enquête préliminaire pour violence et usurpation de fonctions. L'affaire est désormais aux mains de la justice et c'est très bien ainsi, estime le Premier ministre Édouard Philippe. Elle aurait en fait dû l'être beaucoup plus tôt. En vertu de l'article 40 du Code de procédure pénale, les autorités concernées étaient tenues d'informer le procureur de la République dès la connaissance des faits il y a plus de 2 mois et demi.
Florence Turme, merci. Cette affaire Benalla qui touche de plein fouet Emmanuel Macron, puisque l'on parle d'un proche conseiller du président de la République. Et à l'heure où nous parlons, Alexandre Benalla travaille toujours à l'Élysée. Laura Dulieu, bonsoir.
Bonsoir.
En déplacement en Dordogne, Emmanuel Macron s'est refusé à commenter directement la mise en cause de son collaborateur.
Oui, une seule réaction du président à la question est-ce que la République est entachée par cette affaire? Il répond non. La République est inaltérable. Pour le reste, Emmanuel Macron refuse jusque-là de répondre à toute question sur le sujet. C'est en fait le porte-parole de l'Élysée, Bruno Roger Petit, qui est monté au front ce matin lors d'une très courte déclaration. Il explique qu'Alexandre Benalla a largement outrepassé son autorisation et que la sanction prise à son égard était la plus grave jamais prononcée contre un chargé de mission travaillant à l'Élysée. Mais fait plus surprenant, le porte-parole donne le nom de ce deuxième homme, Vincent Crase, on l'a dit, sanctionné pour les mêmes faits qu'Alexandre Benalla. L'Élysée espère ainsi calmer les esprits et déminer le terrain en s'affichant transparent. Et puis au sein du gouvernement, on essaye de faire bloc autour de la présidence. Nicole Belloubet parle de gestes absolument inadaptés. Gérard Collomb saisit la police des polices. Édouard Philippe se réjouit que l'affaire soit aux mains de la justice. Mais malgré tous ces efforts, la polémique enfle et la présidence ne bronche pas. Quand Laurent Wauquiez somme Emmanuel Macron de s'expliquer, eh bien le chef de la majorité à l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, répond « ce n'est pas le genre de la maison ». Autrement dit, pas de vague, c'est ce qui semble être la stratégie de l'Élysée. Mais en attendant, l'incendie est loin d'être éteint.
Laura Dulieu, merci. Et effectivement, cette affaire Benalla a sorti la classe politique de l'unanimisme qui avait prévalu après la victoire des Bleus à la Coupe du Monde. Bonsoir Ilan Malka.
Bonsoir Stanislas.
Vous revenez de l'Assemblée nationale et à gauche comme à droite, on demande des explications au gouvernement bien sûr, mais surtout à Emmanuel Macron.
Oui, alors dans les couloirs de l'Assemblée, nous avons interrogé plusieurs députés de La République En Marche, mais ils n'ont pas souhaité répondre. C'est donc l'opposition qui parle d'une même voix dans cette affaire en demandant déjà au chef de l'État de sortir de son silence. À droite, par exemple, Christian Jacob est chef de file des députés LR.
Le président de la République, le directeur de cabinet, enfin toute la hiérarchie de l'Élysée, visiblement était au courant et il y a une faute très lourde de ne pas dénoncer. On est sur quelque chose qui peut être très grave. Le président doit faire la lumière et dans les plus brefs délais. Et lui seul.
Au centre, le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, attend des réponses à des questions politiques. Il en dénombre trois très importantes concernant cette affaire Benalla.
Pourquoi est-ce qu'il a été envoyé dans une manifestation? Quand on est chef adjoint du cabinet du président de la République, c'est certainement pas pour aller contrôler les manifestations, ni même faire son expérience. Deuxièmement, est-ce que cette personne a été dénoncée comme elle aurait dû être dénoncée? Et troisièmement, pourquoi cette sanction est une sanction aussi légère?
Et pour répondre à ces trois questions, le groupe La France Insoumise, à gauche, réclame une commission d'enquête parlementaire. Daniel Obono est député FI.
Il y a une responsabilité politique et j'attends, moi en tant que députée, que le pouvoir législatif fasse son travail parce que c'est notre travail de contrôler l'action de l'exécutif. Moi en tant que parlementaire, j'attends de la majorité qui prenne leurs responsabilités et mette en place cette commission d'enquête.
Et côté France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon avait demandé également un peu plus tôt à ce qu'un juge d'instruction soit saisi dans cette affaire. À l'heure actuelle, vous le disiez Stanislas, le président de la République ne s'est pas encore exprimé.
Ilan Malka, merci. J'ajoute qu'au Sénat, le groupe CRCE à majorité communiste demande l'audition en urgence du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb devant la commission des lois. Va-t-on vers un rebondissement dans l'affaire Tariq Ramadan? L'avocat de l'islamologue suisse va déposer ce soir une nouvelle demande de mise en liberté de son client, Tariq Ramadan, incarcéré depuis le 2 février, mis en examen pour viol. Il est confronté aujourd'hui à la première plaignante, Enda Ayari. Cette ancienne salafiste accuse Ramadan de l'avoir violée au printemps 2012. Hélène Fromanti, bonsoir.
Bonsoir.
L'enquête a mis à jour un certain nombre de contradictions dans les accusations d'Enda Ayari.
Ah oui, le problème c'est qu'Enda Ayari est incapable de dire où et quand ce viol se serait produit. En effet, entre chaque audition, les souvenirs de cette ancienne salafiste devenue militante féministe ne cessent de changer. En octobre dernier, elle dépose plainte et livre sa première version. Tariq Ramadan aurait abusé d'elle au début du printemps 2012 dans un hôtel de l'Est parisien. Puis la jeune femme épluche ses agendas et passe à la version numéro 2. Les faits se seraient en fait déroulés deux mois plus tard, le 26 mai, à l'hôtel Crown Plaza, place de la République à Paris. C'est ensuite le travail des enquêteurs qui met au jour une troisième version. Selon la brigade criminelle, ce 26 mai 2012, Enda Ayari n'était pas dans la capitale, mais à Rouen, des témoignages et des photos prouvent qu'elle se trouvait en réalité au mariage de son demi-frère. C'est donc dans une atmosphère très tendue que cette confrontation inédite s'est déroulée ce matin. 2h30 et une juge d'instruction pour tenter de démêler le vrai du faux. D'après l'avocat d'Enda Ayari, oui, sa cliente s'en mêle les pinceaux, mais c'est parce qu'elle est traumatisée et que les enquêteurs insistent pour qu'elle se souvienne. Malgré tout, pour maître Francis Spinner, cela ne change rien aux accusations, des accusations que la plaignante maintient. Tariq Ramadan, de son côté, continue de nier tout viol et estime désormais que le scénario de son accusatrice s'effondre.
Hélène Fromanti, merci. La demande de mise en liberté de Tariq Ramadan sera examinée dans les prochains jours. Le gouvernement a dévoilé aujourd'hui les détails des économies qu'il compte imposer à l'audiovisuel public. 190 millions d'euros d'ici 2022. Ce plan prévoit notamment la suppression de deux chaînes hertziennes. Franceau, la chaîne de l'Outre-mer, et France 4 destinée à un public jeune. Cécile de Kervazeux, bonsoir.
Bonsoir.
C'est le groupe France Télévisions qui supportera l'essentiel des économies budgétaires demandées à l'audiovisuel public.
Oui, dans le communiqué officiel, France Télévisions devra effectivement faire 160 millions d'euros d'économies d'ici 2022. Radio France en fera 20 millions et les 10 millions restants seront répartis entre France Média Monde, Arte, TV5 Monde et l'INA. Seulement, quand on regarde les chiffres d'un peu plus près, la somme réelle est beaucoup plus importante. Parce qu'en plus des 190 millions demandés, l'État exige aussi que les sociétés d'audiovisuel public fassent également 150 millions d'investissements à moyen constant dans le numérique. Si on ajoute ces deux mesures d'économie, on arrive donc déjà à 340 millions d'économies sur 4 ans. Alors, même que France Télévisions, qu'elle que le ministère demande à France Télévisions qu'elle fasse plus de contenus de jeunesse, d'outre-mer et de contenus régionaux. Impossible de faire plus avec moins, c'est la phrase qui revient depuis des mois en interne à France Télévisions, d'autant que France Télé a déjà fait 50 millions d'économies cette année. Résultat, un départ en retraite sur deux n'est déjà plus remplacé. Alors quand on demande l'impact sur les effectifs au ministère, eh bien le ministère botte en touche en arguant que c'est la responsabilité de la PDG du groupe. Impossible de s'en tenir là. Claude Guénot, journaliste à France 3 national et délégué du SNJ-CGT, fustige un véritable jeu de dupes.
Ce sont des tartuffes, hein, parce que dans l'audiovisuel, les dépenses, c'est la masse salariale. Donc si on veut faire des économies, il faut tailler dans les effectifs. Moins d'effectifs, ça veut dire moins de moyens dégagés pour construire une véritable offre d'information sur les plateformes numériques et sur tous les écrans. Donc un contenu appauvri pour ce que les citoyens sont en droit d'attendre de France Télévisions, aussi bien aux 20h, aussi bien aux 19h, aussi bien en région, en Outre-mer, que sur les plateformes numériques. Ça veut dire que ça laisse aussi en même temps la place aux médias privés qui sont largement possédés par les milliardaires et les grandes familles françaises.
Notant que le ministère a rappelé que les 560 millions d'euros d'argent public alloués à la création comprenaient toutes ces sociétés privées qui produisent du contenu pour la télévision, seraient eux sanctuarisés.
Cécile de Kervas-Doué, merci. En attendant, France Culture se porte bien. Vous êtes 1 326 000 à nous écouter chaque jour. Avec 2,4% d'audience cumulée selon Médiamétrie, France Culture signe son meilleur résultat pour la vague avril-juin. Merci à toutes et à tous. Viktor Orban est aujourd'hui en Israël malgré les soupçons d'antisémitisme qui pèsent régulièrement sur le Premier ministre hongrois. Orban accusé notamment de s'en prendre à George Soros, ce milliardaire juif américain qui a fondé une université à Budapest. Soros d'origine hongroise qui serait le symbole d'une société multiculturelle honnie par Orban. En dépit de ce contexte, le Premier ministre hongrois a été accueilli à bras ouverts par son homologue israélien Benjamin Netanyahou. La correspondance à Jérusalem de Marie Semelin.
En Israël, beaucoup grincent des dents, mais rien n'y fait, il n'y a pas l'ombre d'un désaccord entre Benjamin Netanyahou et Viktor Orban, qui n'a prévu aucune visite dans les territoires palestiniens. Pour sa première déclaration, le Premier ministre hongrois s'est empressé d'affirmer qu'il prenait la tolérance zéro contre l'antisémitisme, une manière de rassurer après notamment sa violente campagne contre le milliardaire juif George Soros, qui souhaite selon lui inonder la Hongrie de réfugiés. Cette cabale au relent antisémite avait inquiété la communauté juive de Hongrie, que Benjamin Netanyahou était venu apaiser. Le Premier ministre israélien soigne ses alliés européens qu'il a trouvés dans le groupe dit de Visegrad, en Hongrie donc, mais aussi en Pologne, en Slovaquie, en République tchèque, où le nationalisme du gouvernement israélien est bien mieux compris qu'ailleurs. Et le bénéfice est évident, notamment aux Nations Unies, où le groupe soutient résolument une politique pro-israélienne, bloquant ou s'abstenant lors de votes condamnant la colonisation des territoires palestiniens ou l'usage de la force dans la bande de Gaza. Benjamin Netanyahou tente, lui, de faire pression sur les États-Unis pour faire sortir la Hongrie de son isolement. Il a salué deux pays qui comprennent la menace de l'islamisme radical. Quant à Viktor Orban, il s'est réjoui de rencontrer un patriote comme lui.
Marie Semelin à Jérusalem. Carles Puigdemont va rester en Allemagne. La justice espagnole a retiré aujourd'hui le mandat d'arrêt international visant l'ancien président indépendantiste de la Catalogne. Rappelons que le tribunal du Schleswig-Holstein avait accepté de remettre Puigdemont au juge espagnol, mais à une condition qu'il ne soit pas jugé pour sédition et rébellion. Condition inacceptable vue de Madrid, où l'on retrouve Mathieu Le Taillac.
Mais pourquoi donc la justice espagnole renonce-t-elle à ce que lui soit remis Carles Puigdemont et ses anciens ministres régionaux? Eh bien parce que si le juge de la Cour suprême, Pablo Larena, avait accepté que Puigdemont lui soit livré, ce dernier n'aurait pu être jugé que pour malversation. On aurait donc l'ancien président de la région jugé pour un délit mineur, alors que ses subalternes restés en Espagne devraient pour leur part répondre d'accusations bien plus graves, notamment celles de rébellion. Cela risquait de faire désordre, le magistrat espagnol du coup renonce à faire venir Puigdemont, mais attention, si ce dernier met un pied en Espagne, là, le mandat d'arrêt national court toujours. Puigdemont serait donc immédiatement arrêté et jugé pour l'ensemble des délits qui lui sont imputés. Et si l'ex-président s'aventurait dans un autre pays, le juge peut encore émettre un nouveau mandat d'arrêt européen en espérant qu'un autre tribunal étranger se montre plus compréhensif. La seule solution pour Puigdemont est de rester en Allemagne pendant 20 ans, jusqu'à ce que les délits arrivent à prescription. Quant aux autres responsables indépendantistes partis à l'étranger, 3 se trouvent en Belgique, 1 en Écosse et 1 dernière en Suisse. La justice belge a opposé des problèmes de forme à la demande demande du juge Llarena. La Suisse, hors UE, ne fonctionne pas par mandat d'arrêt européen et est encore plus tatillonne sur les extraditions. Et visiblement, le magistrat n'attend pas grand-chose de la justice britannique. Il préfère éviter un nouvel échec.
Mathieu de Taillac, correspondant de France Culture en Espagne. Le temps demain tournera à l'orage du sud-ouest au nord-est. La matinée sera pluvieuse dès le matin de la Normandie à la région parisienne. Sur les autres régions, le soleil et la chaleur résisteront. Température minimale de 13 à 22 degrés de la Manche à la Méditerranée. Les maximales iront de 21 à 34 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.